France Culture, une mémoire radiophonique.
Sous le règne de Louis XIV, les festins étaient une chose courante à la cour du roi. Les repas duraient des heures, parfois une journée entière, et se faisaient dans une opulence qui semble aujourd'hui complètement invraisemblable. Il y avait 5 services de 50 plats, soit plus de 250 mets sur une même table. Il était impossible de goûter tous les plats, et ces quantités proprement gargantuesques étaient là pour symboliser la richesse, le pouvoir et la générosité de la couronne. À première vue, tout semble opposer ces festins et les grands restaurants étoilés modernes. De la recherche de l'excès, on passe à la recherche du raffinement, de l'esthétisme, de la créativité. Pourtant, une chose est restée la même. On cherche à donner du plaisir à ses convives et à en éprouver en mangeant. Ce troisième de 4 épisodes de la série « Les plaisirs de la bouche » de Laure Adler pour les Nuits Magnétiques confronte le monde plutôt aseptisé de la haute gastronomie à l'hubris culinaire qu'est le festin. On y retrouve les chefs Bernard Loiseau, Wally Chouaki, Joël Robuchon, Robert Vifian, qui racontent leur rapport à cette notion de festin, ce qu'ils rapprochent dans le monde moderne des repas de fête. Caviar, homard et autres produits luxueux ne sont pas forcément leur mets de choix. Pour un cuisinier, un festin peut résider dans des produits simples, comme un pot-au-feu, dont le goût transporte dans de précieux souvenirs. Une émission diffusée pour la première fois le 31 décembre 1987.
On me cloche bien vite l'écran pour pas qu'elle croise, s'il vous plaît. Ça marche, chef.
Une buissonnière à écran pour plus de cassolettes de Saint-Jacques.
Un bon repas.
Nuit magnétique. Les plaisirs de la bouche, numéro 3.
Un bon repas. Qu'est-ce qu'un bon repas? C'est très difficile, ça. C'est... Bon, d'abord, c'est un repas qui... Je demande à un bon repas de me surprendre quelque peu, c'est-à-dire qu'il y ait au moins quelque chose qui soit un peu insolite. Je lui demande d'être léger, c'est-à-dire de me laisser partir, non peut-être pas sur une sensation de faim, ce serait exagéré, mais au moins sans sensation de plénitude en excès. Et un bon repas. En fait, c'est la question essentielle que vous me posez là, et j'aurais dû y réfléchir. C'est un repas dont je me souviendrai avec plaisir, c'est un repas qui me donnera envie de retourner à l'endroit où je viens de le faire.
Est-ce que vous avez des trucs pour garder la ligne ?
Bah non, il suffit de me regarder et j'en ai pas. Si j'en avais un, non, j'en ai pas parce que moi j'en connais qu'un, c'est de moins manger.
Parce que des fois, vous savez, il y a les prix, ça varie, hein, c'est tous les jours ça change. Hein. Puis surtout en ce moment, là, on est dans la période des fêtes. Là, c'est de la folie furieuse, là. Ça allume sec, là. Le foie gras, il passe de 180 à 300 francs le kilo et tout à l'avenant, quoi. Parce que tous les gens, pour le moment des fêtes, c'est les fêtes. Alors, c'est quoi les fêtes? C'est le caviar, c'est le foie gras, c'est les truffes, c'est le homard, c'est les langoustes. Alors, tout le monde se rue là-dessus, qui fait que mais, ça prend des prix et des sommes vertigineuses.
Fut réussi. La chasse, la promenade au clair de lune, la collation dans un lieu tapissé de jonquilles, tout cela fut à souhait. On soupa, l'air était doux, les mets exquis. Des dîneurs imprévus se joignirent à l'assemblée royale. Il y eut donc quelques tables où le rôti manqua. Le cuisinier dit au contrôleur de bouche « Je suis perdu d'honneur, voici un affront que je ne supporterai pas ». Puis à Gourville, il dit « La tête me tourne. Il y a 12 nuits que je n'ai pas dormi. Aidez-moi à donner des ordres. Gourville l'aida, le rassura. Rien n'y fit. Les rôtis manquant lui montaient à la tête. Gourville en avertit Monsieur le Prince. Monsieur le Prince alla jusqu'à la chambre du cuisinier pour le consoler. Tout va bien, tout va bien. Rien n'était si beau que ce souper du roi. Le cuisinier répondit. Monseigneur, votre bonté m'achève. Je sais que le rôti a manqué à deux tables. Point du tout, dit Monsieur le Prince. Ne vous fâchez point. Tout va bien. À 4 heures du matin, il s'en alla chercher les pourvoyeurs qu'il avait mandés dans tous les ports de mer. Il n'en trouva qu'un qui lui apportait seulement 2 charges de marée. Il alla réveiller Gourville et lui dit « Monsieur, je ne survivrai point à cet affront, j'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Gourville se moqua de lui, Vatel monta à sa chambre et se passa 3 fois l'épée au travers du cœur. « Vatel, Monsieur Vatel, le grand Vatel, cet homme d'une capacité distinguée de toutes les autres, dont la bonne tête était capable de soutenir tout le soin d'un état, comme le dit Madame de Sévigné. Vatel, le grand Vatel, fut retrouvé noyé dans son sang pendant que la marée arrivait de tous côtés. Nuit magnétique, les plaisirs de la bouche numéro 3, le festin, et pour y participer, un conseil extrait du nouveau traité de la civilité en France qui se pratique parmi les honnêtes gens. Il faut, en mangeant, joindre les lèvres pour ne pas laper comme les bêtes. Il faut tailler ses morceaux petits pour ne point se faire pocher les joues comme des singes et ne pas faire de bruit avec le gosier pour marquer toutes les gorgées que l'on avale. À bon mangeur, salut !» Et tout d'abord, une histoire de sable et de gazelle, d'oasis et de feu dans les dunes, l'histoire d'un petit garçon, Chamelier, devenu aujourd'hui le plus grand restaurateur de couscous à Paris.
Je m'appelle Wally, tout le monde en France m'appelle Wally, en fait je m'appelle Wally Chouaki. Et je suis né vers les années 28, dans les environs de Tamanrasset. Et je suis en France depuis les années 70, pour un tas de raisons, que le Sahara n'existe plus, qu'il n'y a plus rien à faire là-bas. Et je suis ici, je suis venu en France chercher du travail. Et puis un jour, comme je cuisinais bien, j'ai cherché autour de mes amis du travail. Et tout le monde me disait, il faut faire du couscous, il faut faire un restaurant, il faut faire un restaurant. Et j'ai commencé à faire mon couscous saharien, mon couscous sans sauce, sans carottes, sans navets, que les gens ne comprenaient pas qu'il puisse y avoir un couscous autre que celui que tous les Français mangent à Paris. Au Sahara, on vivait, j'ai vécu la vie du désert, j'ai vécu la vie du chamelier. Mes parents, ma maternelle, avaient des troupeaux de chameaux qu'on suivait, des troupeaux de moutons et des troupeaux de chameaux. Ces chameaux étaient destinés à la location, c'était des dromadaires en fait, on appelait ça des chameaux, mais c'est en fait des dromadaires. C'était destiné, on les louait à l'armée française. Et l'armée française, c'était notre meilleur client. On élevait des dromadaires, on en faisait des méharis de course. Il y avait le dromadaire de charge, de trait, le gros dromadaire pour charger. Et à côté de ça, il y avait le même qui devenait méharide et qui devenait une bête de selle, une bête rapide, une bête racée, rapide, qui couvre des distances extraordinaires dans la journée, qui arrive à faire jusqu'à 300-400 km par jour, pratiquement sans nourriture et sans boire pendant des journées et des journées.
Et qui faisait la cuisine quand vous viviez avec vous?
C'était moi. C'était moi, je me suis découvert des talents de cuisinier. Bon, il y avait des chasseurs.
À quel âge?
Oh, 12-13 ans déjà. Déjà à 12-13 ans, on était adultes et puis il fallait partir. On vivait constamment à courir après les chameaux, à courir après les bergers pour savoir si les bergers étaient toujours là. On leur portait de la nourriture, enfin de la semoule, du sucre, des dattes. On leur portait un complément de nourriture. Et puis, chacun avait quelque chose à faire. On courait après le bois. La denrée la plus rare au Sahara, c'est le bois.
parce que au Sahara, quand même, il y a deux critères extraordinaires. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de matière grasse. Donc, il faut arriver à faire de la cuisine avec le minimum de bois, le minimum d'énergie et le minimum de matière grasse. Voilà. Donc, il faut faire de la cuisine avec un trèpe, avec très, très peu d'énergie, très, très peu de feu. C'était des fours, c'était le système D, quoi. Ça trouvait des cailloux à trouver pour faire un four, de la terre glaise, pour pouvoir mettre un morceau de viande. Il fallait pas qu'il y ait beaucoup de sable, il fallait pas qu'il y ait tempête de sable, il fallait pas qu'il y ait... Pour arriver à manger, pour arriver à se faire une nourriture convenable. Comme j'étais gourmand depuis le départ, j'aimais bien manger, j'aimais pas le sable dans la nourriture, j'aimais pas un tas de choses. Et comment je suis devenu cuisinier ?
Mais qu'est-ce que vous mangez à l'époque alors ?
Ben à l'époque, on mangeait quand, ou on mangeait pas. C'était deux choses l'une. Ou on mangeait des dattes écrasées, mélangées avec de la semoule grillée. Celle-là, c'était le biscuit du marin, c'était le biscuit du chamelier qui traînait, qui est plein de sable, quand ça devenait dur comme un caillou, très nourrissant. Un verre de lait de chamel ou un demi-verre de lait de chamel.
C'est bon le lait de chamel ?
C'est pas bon. Non, chaud, c'est pas bon, c'est affreux, mais c'est très nourrissant et c'est... Je parle de ça, c'est la nourriture en dehors de l'Oasis. Hein, comme on est parti 13, 9 mois sur 12, on est dehors. On ne peut pas vivre l'Oasis, on ne pouvait pas vivre pour rester là, quoi. On ne peut pas vivre dans l'Oasis. Et donc, à partir de ce départ, il fallait vivre. Et de temps en temps, on attendait qu'il y ait un moment où on trouve un point d'eau, une bonne chasse, ou un agneau, ou du gibier à plumes, ou un petit mouflon, ou une gazelle. Et là, on faisait la fête. Là, c'est la fête parce que, bon, on a du bois, il y a de l'eau, on s'arrête et on discute et on parle. Et on fait le menu des journées à l'avance. On en parle comment on va cuire la prochaine gazelle, comment on va cuire la prochaine outarde. Et alors là, on fait un feu, on combine un four, on coupe notre viande en sale, en poivre. On a toutes les épices, on a toutes les herbes sèches avec nous, en sale, en poivre. Et on se nourrit et on mange très peu parce que l'estomac s'est rétréci. La bête, il faut la manger parce qu'il n'y a pas de frigo, pas de congélateur, il n'y a rien du tout. Donc, on a 2-3 jours à se gaver de viande cuite, de 3-4 façons différentes. On fait une fête. Pendant 2-3 jours, on s'arrête pour faire la fête parce qu'il y a eu du bois, parce qu'il y a eu un temps de la calmie, qu'il n'y a pas eu de vent. Quand il y a du vent de sable, on ne peut rien cuisiner. Le sable rentre partout, partout, partout. C'est incroyable. Et voilà la nourriture, on fait du couscous, on fait des viandes, des viandes. Et puis, quand il y a des petits légumes, des champignons, quand il y a de l'humidité dans le sable, il y a des grosses truffes blanches qui sortent, qui sont très parfumées. Pas aussi parfumées que les truffes françaises, bien sûr. Mais pour nous, c'était vraiment un légume extraordinaire. Sinon, dans l'oasis, bon, c'est le petit paradis où il y a tous les légumes, où il y a toutes les verdures, où il y a... Malheureusement, on ne peut pas y rester plus d'un mois, deux mois, parce qu'il y a le travail qui nous appelle à l'extérieur, et on est obligé de repartir, et voilà. Pas apprendre ici, il faut ouvrir le four, on regarde si la viande est assez cuite, sinon on referme le four, on laisse encore un quart d'heure. Là-bas, quand on a mis toute la viande dans un morceau de terre glaise, on la met au four, et puis quand il n'y a plus de feu, quand le four est froid, ben, c'est bon à manger, ou c'est bon à jeter, c'est tout. On ne le loupe pas parce que bon, c'est inné, c'est comme trouver son chemin dans le désert, quoi. Ça ne s'explique pas, ça. Des choses qu'on peut pas, qui sont comme ça en France aussi. Maintenant, depuis que je suis en France, je fréquente des cuisiniers. Il y a des cuisiniers qui sont pratiquement nés cuisiniers, qui n'ont jamais appris. Ou alors leur apprentissage leur a servi seulement à se perfectionner. Ils avaient la base, l'instinct, ils avaient Voilà le fait de cuisiner, même chez nous dans le désert, même les grands cuisiniers dans le désert, les grandes maisons où on mange bien, sont connues, sont archi connues, les gens qui traînent autour parce que l'hospitalité est acquise et d'autorité, donc les gens se rapprochent pour manger bien, pour manger convenablement dans certaines familles où ils savent qu'il y a des cuisiniers, où ils savent qu'il y a que la cuisine est bien faite.
Festin d'épiphanie offert aux Tuileries le 6 janvier 1820. Potage printanier de santé, bisque d'écrevisses, fan de daim à la broche, turbot sauce aux huîtres, carpe à la régence, casserole au riz à la Saint-Hubert, filet glacé aux laitues, sauté de filet de perdreau aux truffes, grenadin de filet de lapereau à la Toulouse, côtelette de chevreuil à la Soubise, filet de côte à la Villefroid sauce vénitienne, quenelle de volaille au consommé réduit, attelée à la belle vue à la gelée, escalope de levrault au sang, poularde à l'estragon, chromeski au velouté, blanquette de filet de poularde à la conti, perche à la waterfish, poulet à la reine à la chivry, petit pâté à la béchamel, filet d'agneau aux pointes d'asperges, purée de gibier à la polonaise, buisson d'écrevisses, sultane à la chantilly, soufflé au fromage, jambon de sanglier glacé. Faisan de Bohême, perdreau rouge, bécasse du Morvan.
Les plaisirs de la bouche, ce soir, le festin, menu de fête, et d'abord celui de Bernard Loiseau.
Ah mais pour moi personnellement, un menu de fête, bah, c'est pas du tout le menu de fête que les clients attendent de ce que je vais leur faire pour le 31 décembre. Moi c'est un super pot-au-feu, magnifique. C'est des choses comme ça, vous voyez. C'est une, moi, je sais pas moi, une crème caramel, des choses très simples, quoi. Et le menu de fête que je vais faire aux clients, bon, bah, ça va tourner autour du foie gras, de la truffe, du homard, du chevreuil, des choses comme ça, quoi. Et les gens attendent ça de toute façon, hein. Si je fais pas ça, j'ai pas un client, hein, de toute façon, ce qui est normal, hein. C'est-à-dire que tous les ans, le 31 décembre, on prend toutes les cartes et on voit toujours les mêmes plats. Alors une année, moi, je vais faire le homard au chou, l'année d'après, je vais le faire avec des carottes, mais c'est toujours du homard. Ça devient classique, c'est-à-dire que les clients, ils ne veulent que des produits hyper nobles. Alors la truffe. Alors maintenant, on en est au problème de la truffe. Alors la truffe, elle vient de sortir de terre. Elle vaut actuellement 1600 francs le kilo et elle n'est pas très bonne. Parce que le meilleur moment de la truffe, c'est à partir du 15 janvier. Pour la truffe, si vous voulez savoir, le numéro 1 de la truffe, c'est Pébert à Cahors. Hein. C'est lui qui fournit tous les plus grands chefs de France et tout, dans le monde entier et tout. Bon. Et la truffe, il faut que ça soit mûr. C'est comme un fruit. Pourquoi nos coulis, les meilleurs coulis qu'on fait, c'est en plein mois d'août qu'on les fait. Donc on les prend et puis on les conserve pour l'hiver. Les coulis de framboise, bon, ben c'est quand le fruit est complètement mûr, qu'il saigne, qu'il est rouge, il éclate complètement, c'est là où c'est les meilleurs. Bon, ben pour la truffe, c'est le meilleur à partir du 15 janvier. Mais les gens, le 31 décembre, s'ils n'ont pas de truffe, ils vont pleurer. Alors on fait de la truffe.
Et le chevreuil, il est bon?
Ah, le chevreuil, oui, très très bon. Oui. Moi, je fais venir de l'Est, là-bas, de la région de chez... De l'Alsace, là, de chez Berlin, dans la région, là-bas. On fait venir nos gibiers de Haguenau. Alors on fait des dos de chevreuil, comme ça, travaillé simplement, rôti, c'est juteux, très moelleux. On le sert avec le jus de cuisson, avec des noix écrasées dedans, et puis des poires rôties.
Et comme dessert. Et
donc pas de marinade, hein. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas fait mariner 3 jours avant mon chevreuil dans le vin rouge et tout, avec des choses comme ça. Et puis les desserts, bon, bah, on travaille le chocolat. Bon, c'est normal, les gens, ils adorent le chocolat maintenant. C'est devenu une folie, ça, le chocolat. Ça, tout le monde veut du chocolat. Alors nous, on fait du chocolat, on fait un gâteau chocolat mère, on fait une feuilletine de chocolat avec du sorbet au chocolat à l'intérieur et une marmelade d'orange. C'est des oranges entières qui sont confites. Et puis qui sont mixés, et puis qui sont reliés après avec du jus d'orange, et qu'on sert en sauce autour. Et puis on fait des desserts à la minute. On a juste le gâteau au chocolat, tout le reste c'est des desserts à la minute. Dans le même principe que ma cuisine, c'est-à-dire que les gens passent la commande, et on se met en route, on met les poêles, bon, on fait des pommes-fruits caramélisées, chaudes, avec une compote de pommes avec du caramel liquide à l'intérieur, et de la glace à la cannelle. Vous voyez, on mélange beaucoup les chauds-froids comme ça. je fais des poires rôties sur un lit d'une sauce au vin avec du poivre, et sur ces poires rôties, du sorbet à la poire au vin. Vous voyez, le mariage de la poire normale rôtie avec la poire au vin transformée en sorbet. Donc tout est comme ça dans notre cuisine. Et puis donc, avant toute chose, les produits de saison, ça c'est primordial. Moi, je ne fais pas de la Saint-Jacques au mois de juillet, je fais de la Saint-Jacques du 15 octobre à fin mars. Moi, je suis contre les produits en dehors des saisons. Ça, je suis d'accord avec Bocuse et puis Trois Gros qui m'ont appris ça. C'est la cuisine du marché, c'est-à-dire qu'on a le marché et puis on fait les produits. Bon, actuellement, on peut avoir n'importe quoi. Hein. On peut avoir des fraises, hein. Je peux vous faire des fraises si vous voulez. Mais alors, avant que vous trouviez le goût de la fraise, on ne sait pas ce que c'est. Ça n'a que l'apparence, mais ça n'a pas le goût.
Purée de gibier à la polonaise, buisson d'écrevisse, sultane à la chantilly, soufflé au fromage, jambon de sanglier glacé, faisan de bohème, perdreau rouge, bécasse du Morvan, asperges en branche, chou-fleur au parmesan, champignons à la provençale, truffes au vin de champagne, laitue à l'essence, épinards au consommé, gelée d'orange, crème à l'anglaise, pancake au citron confit, œufs pochés au jus, gâteau soufflé, macaroni à l'italienne, pommes au beurre de vanves, gaufres à la flamande, deux plombières extra, fruits.
Le festin d'un super toqué, Joël Robuchon.
Écoutez, moi je suis fermé pour les fêtes, donc il n'y aura pas de menu ici, mais je peux vous dire, moi, ce que sera mon menu de fête pour moi-même, ce sont, vous savez, donc ces jours de fête, moi j'essaye pas de me mettre en cuisine, j'essaye de le passer avec mes amis, donc écoutez, ces petites dates, je ferai peut-être une petite folie, je mangerai du caviar, et puis un plat traditionnel que j'aime beaucoup, et que tout le monde aime en général, je ferai un homard à l'américaine, mais que ça sera préparé d'avance, il n'y aura plus qu'à le réchauffer au moment.
Le menu de Fernand.
Pour moi, un festin, c'est de me retrouver avec des collègues, des copains ou des clients après le service, c'est-à-dire une heure et demie. On se casse une bonne croûte, comme on dit, avec un bon petit vin. Et c'est là, comme ça, c'est, pour moi, c'est un délassement. Ça m'arrive quand je fais mes saucisses, des fois à 1h du matin, je fais mes saucisses, j'ai un collègue qui arrive, et on fait griller les petites saucisses, on boit une bonne bouteille, pour moi c'est un festin. Il n'y a pas besoin d'huître, de foie gras, de saumon et de caviar.
Vous n'en êtes pas là?
Ah non, madame la marquise, il est à Orléans avec la camionnette, pour le poisson.
Alors, vous lui expliquerez peu le régime de madame de la Bruyère. Elle mange de tout. Mais pas de sel. Non, au contraire, beaucoup de sel, mais du sel marin, et seulement après la cuisson. Oh, c'est très facile, un enfant comprendrait. Après cuisson.
Vous avez du sel marin?
Non, madame, mais on fera le nécessaire.
Adolphe, ou madame de la plante?
Ah oui, madame la marquise, j'allais oublier. Pas de thé, du café.
Et pour le général, un rond de citron dans de l'eau chaude.
Bien, madame la marquise.
Je sais, l'artisme.
Paul!
Termes de cuisine. Aspiquer. On entend par aspiquer mettre jus de citron ou vinaigre réduit dans gelée, sauce et jus. Chemiser. C'est enduire un moule d'entrée ou d'entremets pour former la couche de farce ou de gelée qui enveloppe le corps de certaines entrées et de certains entremets. On applique aussi l'opération du chemisage à des pièces glacées, telles que les bombes que l'on recouvre d'une écorce différente comme goût du corps principal de la glace. Clouter. C'est placer sur poularde, poulet, noix de veau, riz de veau, des clous que l'on forme avec des truffes et de la langue à l'écarlate. Cette opération se fait avec une brochette de bois pointue de 8 mm que l'on enfonce dans le morceau de bois.
Vous écoutez France Culture, Nuit Magnétique, Les Plaisirs de la Bouche numéro 3. Ce soir, le festin, Mademoiselle Festin, Marie de la Forêt d'Yvonne.
Tous les gens disent, oh là là, est-ce que nos ancêtres mangeaient beaucoup, nous, à côté, on mange très peu, comment est-ce qu'ils faisaient pour manger tout ça, etc. Et je me suis demandé, justement, est-ce qu'ils mangeaient vraiment tant que ça, qu'est-ce qu'ils mangeaient? Et j'ai essayé de remonter à la nuit des temps, c'est-à-dire jusqu'à Charlemagne, parce que d'habitude, on entend toujours parler des festins de Louis XIV, et puis au-delà, on ne sait plus rien. Donc voilà, je me suis amusée à rechercher dans les archives privées et publiques tout ce que j'ai pu trouver sur ce sujet, sur les festins. C'est-à-dire que moi, je me suis intéressée aux festins. Les festins, en fait, n'avaient lieu que chez la très haute aristocratie et plus particulièrement au niveau de l'État, si vous voulez. Moi, je me suis intéressée aux festins royaux, puis ensuite républicains, c'est-à-dire à Versailles, à l'Élysée, à Versailles, au Louvre avant, etc. Bon. Et en fait, on faisait festin, c'était pas une question de longueur, c'était une question de cérémonial, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de services, il y avait évidemment beaucoup d'invités, mais ça durait pas forcément très longtemps. Contrairement à ce qu'on pense, c'était plutôt plus court. Les festins ont rarement dépassé une heure, ce qui est quand même très très court. Au Moyen-Âge, c'était plus long, ça durait, et en plus on nourrissait les pauvres. On calculait toujours les quantités en fonction de tous les gens qui étaient dans les environs et on laissait énormément pour les pauvres dans ce qu'on appelait des pots à aumône, mais pas seulement ça, on leur laissait, après ils venaient, ils pouvaient manger les reliefs du repas, c'était quelque chose qui était prévu. Et ensuite, les festins se sont beaucoup raccourcis dès le moment où il y a eu une étiquette très très rigide, surtout au XVIIe en fait. Et après, ils se sont mis à durer une heure. Sous Napoléon, c'était carrément trois quarts d'heure. Et puis maintenant, les festins républicains ne durent jamais plus d'une heure. Maintenant, on sert entrée, plat. On mange, si vous voulez, maintenant à l'Élysée, comme on mange dans un restaurant de bonne qualité, pas plus.
Faire festin, c'est aussi faire, en quelque sorte, une manifestation. Parce qu'il y a tellement de gens qui viennent à des festins. C'en est fabuleux.
Bien sûr. Il n'y a pas seulement les gens qui viennent manger. C'est-à-dire qu'il y avait les gens qui venaient regarder. Et pour ça, on payait très très cher. On était prêts à tout.
Payait pour voir.
On se battait pour venir voir manger. C'était insensé. Il y avait des centaines de gens qui se bousculaient, qui s'habillaient aussi très très bien, qui se ruinaient en bijoux pour avoir le droit simplement d'être cachés dans un petit coin à regarder les autres manger. C'était la folie. Le peuple rentrait très très facilement. On ne sait pas, mais on s'imagine que les palais étaient protégés. Par exemple, Versailles. On rentrait à Versailles comme dans un moulin, si j'ose dire. C'est-à-dire que maintenant, à l'Élysée, vous pouvez pas aller voir manger Mitterrand. Et non seulement ils venaient regarder, mais en plus ils se jetaient sur les os de poulet rongés par Louis XIV. Enfin, et il y avait de quoi manger en plus.
Si le jury, c'est un bel homme, hein. C'est dommage que la patronne...
Vous savez qu'elle l'a placé à sa droite.
À sa droite ou ça à
sa droite à table.
Oh, eh bien, le temps. Moi, je suis pour faire ce qui me plaît dans la vie, mais les convenances sans les convenances.
Oui, ben, t'occupe pas de madame, elle a pas besoin de tes conseils. Des asperges?
Non, merci, jamais de conserve. Je n'aime que le frais, à cause des vitamines.
On me donne la moutarde.
Voilà, voilà.
If you please.
Merci.
Chef, vous avez pensé au sel marin pour la mère Labruyère? Madame Labruyère mangerait comme tout le monde. J'accepte les régimes, mais pas les manies.
Tout de même, la patronne, elle exagère avec son aviateur.
Vous voulez dire de la gêne? Il n'y a pas de plaisir.
Ah, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Corneille?
Si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien.
Oh, pas gracieux, l'adjudant. Le moutarde, s'il vous plaît.
Excusez-moi.
Merci.
Enfin, mon cher Corneille, vous qui avez servi 10 ans chez le comte de Vaudois.
Oh, pardon, 12 ans. Et j'y serais encore si monsieur le comte n'avait pas été ruiné dans les produits alimentaires.
Bon, eh bien, est-ce que la comtesse...
Mon cher ami, la comtesse n'avait pas d'amant.
Oh, bah évidemment, elle avait 85 ans et on l'a traînée dans une petite voiture. Vous allez tout de même pas la comparer à madame, non?
Le comte de Vaudois n'était pas un métèque.
Qu'est-ce que ça veut dire encore ça?
Simplement que la mère de la Chenet avait un père qui s'appelait Rosenthal et qui arrivait tout droit de Francfort, c'est tout.
À propos de juifs, avant de venir ici, j'étais chez le baron d'Épinay. Je vous garantis que là, il n'y en a pas. Mais je vous garantis aussi qu'ils bouffaient comme des cochons. C'est d'ailleurs pour ça que je les ai quittés.
On n'a pas longtemps, Lisette?
Ah ben, je ne sais pas, madame a encore besoin de moi.
La Chenet, tout métèque qu'il est, m'a fait appeler l'autre jour pour m'engueuler pour une salade de pommes de terre. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, que pour que cette salade soit mangeable, il faut verser le vin blanc sur les pommes de terre lorsque celles-ci sont encore absolument bouillantes. Ce que Célestin n'avait pas fait parce qu'il n'aime pas se brûler les doigts. Eh bien, lui, le patron, il a reniflé ça tout de suite. Vous me direz ce que vous voudrez, mais ça, c'est un homme du monde.
Thank you.
j'avais lu ça une fois, je crois que c'était dans Guémillo. Quand on a bien mangé, ce qu'on appelle un bon repas, c'est quand on sort de table avec une légère faim. Alors, je trouve ça hallucinant. Pourquoi une légère faim? Parce qu'il faut avoir des dents de loup pour devenir créateur d'entreprise, pour se battre, tout cet univers quoi, du nouveau capitalisme. Avant, on mangeait pour faire la sieste et éventuellement faire l'amour. Enfin, ça allait. Brigas Savarin, par exemple, disait pour lui, le repas était les préliminaires de l'amour. Hein, quoi.
On a commencé à lutiner avec Louis XV et sous la Renaissance aussi. On connaît les festins de Catherine de Médicis qui étaient quand même assez étonnants, c'est-à-dire qui n'étaient pas ce qu'on a dit, c'était pas la débauche, les gens ne faisaient pas de partouze sur les tables, mais il y avait mais il y avait quand même des jeunes femmes très déshabillées qui servaient. Enfin, et puis il y a eu toute une littérature d'érotisme culinaire où il y avait des plats qu'on recommandait pour mettre les jeunes femmes en état de... enfin, en de bonnes dispositions, disons. Et pareil, il fallait boire certains breuvages, il fallait faire... C'est devenu quand même très, très érotique. Et avec, effectivement, les soupers du régent, alors là, il y a eu plus de... Disons, de laisser-aller, effectivement. Mais ça n'a pas non plus atteint des sommets. Sous la Révolution, il y a eu des trucs très, très amusants. Il y a eu des festins dans les églises, dans les ci-devant églises. Et il y a eu des récits absolument... étonnant de ces festins qui disaient que les gens allaient jusqu'à faire l'amour sur les autels au milieu des détritus de repas, tout ça pour un petit peu démystifier tout ce qui s'était passé dans les églises. Mais on ne sait pas si vraiment ça s'est passé comme ça.
Mais avant de faire l'amour, il vaut mieux avoir bien mangé, avoir fait un bon repas.
Mais évidemment, il vaut mieux avoir fait un bon repas. De toute façon, on sait bien qu'une bonne nourriture, que le fait... De toute façon, c'est un plaisir. La nourriture est quelque chose de sensuel. Donc forcément, quand on a fait un bon festin, on est dans de très très bonnes dispositions. Après, à condition qu'on n'ait pas trop abusé de l'alcool. Car au-delà, en dessous d'une certaine quantité, l'alcool...
C'est pas pour les hommes, là.
Oui, bien sûr. Non, mais même pour les femmes, parce que en dessous d'une certaine quantité, c'est tout à fait stimulant. Au-delà, on dort. Donc forcément, on fait pas de prouesse.
Recette d'Alice, fondant au haschich que n'importe qui peut improviser un jour de pluie. C'est la nourriture du paradis. Elle peut constituer une amusante friandise pour un club de bridge de dames ou une réunion de chapitres des Daughters of the American Revolution. Une euphorie et de grands éclats de rire, des rêveries extatiques et une extension de la personnalité sur plusieurs niveaux simultanés sont à prévoir avec satisfaction. Presque tout ce que Sainte Thérèse a fait, vous pouvez le faire encore mieux si vous acceptez de vous laisser aller à un évanouissement réveillé. Prenez donc une cuillerée à café de grains de poivre noir, une noix de muscade entière, 4 bâtons de cannelle de taille moyenne, une cuillère à café de coriandre. Le tout doit être pilé dans un mortier. Environ une poignée de dattes dénoyautées, autant de figues sèches, d'amandes décortiquées et de cacahuètes. Hachez ces ingrédients et mélangez-les tous ensemble. On peut piler une petite botte de cannabis sativa, saupoudrera, ainsi que les épices.
lutinait peu parce que les femmes ont peu de place dans ce repas somptuaire du 19e siècle.
Jean-Paul Aron.
Au restaurant, on n'en voit guère. Et au début du siècle, pratiquement jamais.
Il y a pourtant des cabinets privés dans les restaurants.
Alors, ils se sont développés sous la monarchie de Juillet et surtout sous le Second Empire. Mais alors, les femmes qui accompagnent leurs hôtes sont des créatures. Les femmes de condition, les femmes honnêtes, les honnêtes femmes ne viennent pas au restaurant. Chez soi, c'est différent. L'amphitryon est le plus généralement marié et son épouse est là. Mais lors même qu'elle est là, lors même qu'un certain nombre d'hôtes, pas tous d'ailleurs, sont accompagnés de leurs épouses, les femmes n'ont pas un droit particulier à la cérémonie alimentaire. Elles se désintéressent à cette table. C'est une affaire d'hommes.
Les femmes dans la rue, pas dans les cuisines, scandait le MLF quand il manifestait dans les années 70, mais que font donc les femmes des super-toqués? Et par exemple, celle d'un des plus grands super-toqués, Joël Rebuchon.
Chez moi, c'est pas moi qui fais la cuisine chez moi, c'est ma femme qui cuisine très bien, qui fait une très bonne cuisine, et donc c'est elle qui l'a fait. Moi, je fais la cuisine lorsque j'ai des invités, mais sa cuisine est excellente.
On entend par contiser pratiquer des incisions en biais dans les filets et filets mignons pour introduire des lames de truffes et de langues à l'écarlate. Croutonner, c'est disposer autour d'une entrée froide des bordures de morceaux de gelée taillés en losange, en équerre, en carré, etc., qui reçoivent pour ces sortes de garnitures le nom de croutons. Dresser en sens inverse, on désigne par cette expression certaines couronnes ou rosaces que l'on forme pour les chauds-froids, les entrées de filets, les aspics, etc., en les disposant en sens inverse. Attelée. Brochette d'argent que l'on garnit de racines, truffes, crêtes de coq, écrevisses, crevettes, etc., pour orner les grosses pièces de cuisine. On peut varier les attelées à l'infini. Nous donnons trois espèces de attelées de racines. Sanglée. Le mot sanglée désigne une des principales opérations du glacier qui consiste à mettre dans le seau à glace un morceau de glace de 8 cm de hauteur. On couvre ce morceau de glace de deux fortes poignées de salpêtre. On pose dessus la sorbetière avec son couvercle. On garnit le tout avec de la glace bien mignonne.
Alors un festin idéal, on va prendre un festin du 17e parce qu'au 17e, il y avait à la fois la quantité et la qualité, ce qui n'était pas le cas précédemment, parce que précédemment, on mangeait des choses qui sont tout à fait déconcertantes pour un palais actuel, qui étaient des choses très 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 épicées, toutes les viandes étaient bouillies avant d'être rôties, enfin, il y avait des goûts quand même assez étranges et c'était pas terrible, terrible. Tandis qu'au 17e, vient un certain raffinement, tout en gardant la quantité et l'aspect décoratif des choses qui étaient superbes. Alors au 17e, un festin classique avait 5 services, c'était quand même le nombre maximum de services qu'il pouvait y avoir, mais enfin c'était très courant à la cour, 5 services. 5 services qui faisaient chacun à peu près 50 plats, ce qui faisait quand même un nombre impressionnant de plats, mais dans un ordre très, très fixe, c'est-à-dire qu'en premier, on avait le service des entrées. Dans les entrées, il y avait toujours un potage, c'est-à-dire qu'il y avait, dans chaque service, il y avait un plat principal et autour, plein de plats qui étaient disposés de manière très symétrique sur la table, très décorative. Donc, il y avait un potage avec des entrées, c'est-à-dire que les entrées, c'était des pâtés, c'était des ragoûts, plusieurs potages de diverses sortes. Ensuite, il y avait ce qu'on appelle les relevés de potage, c'est-à-dire à l'intérieur du même service, on apportait d'autres plats, d'autres potages ou d'autres viandes, d'autres pâtés. Ensuite, il y avait classiquement le service des rots, tout ce qui était rôti. Alors là, ça allait de la caille au cochon. Enfin, c'était de toutes les tailles, de toutes les sortes. Il y avait des tas de légumes autour de ça. Il y avait des tas de salades, qui ne sont pas du tout les salades qu'on mange maintenant, qui étaient beaucoup à base d'oranges et de citrons. Et de salade verte, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agrumes. Il faut savoir que les oranges et les citrons, jusqu'au 17e, ont été consommés à très, très haute dose, bien qu'on ait l'impression qu'on mange des fruits extraordinaires, alors qu'en fait, ils en mangeaient 10 fois plus que nous. Et puis, il y avait des plats en sauce, bien sûr, des tas de plats en sauce. Il y avait les entremets, ensuite. Alors, les entremets, c'était aussi bien les choses salées que sucrées, c'était pas du tout spécialement sucré. Il y avait des tas de plats en sauce qui étaient des entremets, c'était étonnant. Et c'était en principe froid. Et ensuite, il y avait ce qu'on appelle les issues de table, enfin les desserts. Le terme de dessert n'est né qu'en 1540. C'était en fait l'idée de desservir la table, c'est-à-dire qu'on enlevait tout et ensuite on apportait des choses sucrées. Les desserts, c'était des pâtisseries, c'était des fruits, c'était des fromages. Car jusqu'à très tard, même jusqu'au XVIIIe siècle, on a mangé les fromages après les desserts. Et puis voilà, et ensuite, il y avait toutes les liqueurs, les vins. Enfin, il y avait encore plein de choses qu'on buvait, on grignotait des dragées. Enfin, on avait mangé quand même un nombre de plats impressionnant. Mais on mangeait très, très, très peu de choses. On goûtait, il y avait beaucoup sur la table, mais on goûtait. Donc, on mangeait plus que nous à notre époque. Mais enfin, on ne mangeait pas non plus à s'en faire éclater le ventre, comme on peut le penser.
Des huîtres. Elles se mangent ordinairement crues avec du poivre. L'on en sert aussi dans leurs coquilles, cuites sur le grill, feu dessous et la pelle rouge par-dessus. Quand elles commencent à s'ouvrir seules, elles sont cuites. Elles s'appellent huîtres sautées. Elles se servent encore grillées d'une autre façon. Vous les ouvrez et mettez dedans du beurre fondu, un peu de poivre, de la chapelure de pain. Faites-les cuire sur le grill et la pelle rouge par-dessus. Les huîtres servent aussi à faire des ragoûts pour mettre avec différentes viandes, comme poulet, poularde, pigeon, sarcelle, etc. Pour l'or, vous les faites blanchir dans leur eau à très petit feu. Prenez garde qu'elles ne bouillent, cela les racornirait. Mettez-les après dans de l'eau fraîche. Retirez-les ensuite pour les bien égoutter sur un tamis. Vous avez ensuite un bon coulis gras, sans sel. Mettez deux anchois hachés et les huîtres, faites-les chauffer sans qu'elles bouillent et servez avec ce que vous jugerez à propos. Des huîtres.
En général, enfin, les huîtres cuisinées, il y avait des recettes traditionnelles d'huîtres au gratin. Maintenant, les chefs sont en train d'inventer énormément de choses de ce côté-là. On utilise les huîtres sous forme de coulis. On utilise pour accompagner le poisson. On utilise des huîtres dans des sauces au vin. On présente des huîtres retirées de leur coquille. Rouler dans des feuilles d'épinards, par exemple, et dans leur jus. C'est absolument succulent. On fait des blancs de poireaux aux huîtres. On fait des centaines de choses. Et c'est un domaine où l'invention est totale, puisqu'on part de pratiquement pas de recettes. Voilà. Il y a 50 ans en France, des recettes pour faire de la cuisine avec des huîtres, enfin des huîtres chaudes, il y en avait deux ou trois. Bon, pas plus. Il y en avait extrêmement peu. C'était des recettes ou de la grande cuisine d'accompagnement du poisson, mais très rare, ou alors de la cuisine au contraire très populaire. Maintenant, moi j'ai pas fait le tour, mais c'est vrai que j'en suis déjà probablement une soixantaine de recettes.
Prenez un demi-cent d'huîtres au panier que vous mettez dans de l'eau chaude. Quand elle est prête à bouillir, vous les retirez pour les mettre dans de l'eau fraîche. Faites-les goûter et après n'en prenez que le tendre. Si vous prenez le tout, que le dur soit haché à part très fin. Vous mettez ensuite le reste avec pour le hacher aussi. Si vous voulez mêler avec de la chair de carpe, cela augmentera votre hachis et lui donnera bon goût. Mettez dans une casserole un bon morceau de beurre avec persil, ciboule, champignons hachés. Passez-les sur le feu et mettez-y une pincée de farine. Mouillez après avec un demi-septier de vin blanc et autant de bouillon maigre. Mettez dedans cuire votre hachis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sauce et assaisonnez de bon goût. Quand vous êtes prêt à servir, mettez-y une liaison de 3 jaunes d'œufs et de la crème. Servez pour entrée.
Citron or not citron, that is the question.
Moi, je pense que cette histoire du citron, c'est une habitude avec les huîtres comme pour le poisson. Autrefois, le poisson, ça voyageait quand même nettement moins facilement que ça ne voyage aujourd'hui. Il n'y avait pas les frigos, les transports étaient beaucoup plus lents, le poisson arrivait dans un état qui était certainement moins bon que celui qu'on a aujourd'hui. Alors, on se prémunisait un petit peu avec le citron. Pareil pour l'huître, c'était le moyen de voir si l'huître était vivante ou pas. Bon, mais moi, je trouve personnellement que ça n'apporte strictement rien. Après, maintenant, je vais vous dire, il y a la liberté du client. Si votre plaisir à vous est de manger avec du citron, je vois pas de quel droit je me permettrais de vous interdire ce plaisir-là. Vous comprenez, moi j'aime le vin rouge
avec les huîtres.
Bon,
c'est très chic.
Bon, c'est pas vrai. Hein, j'aime pas le vin rouge avec les huîtres. Mais je veux dire par là que on ne discute pas du plaisir des gens.
Satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait
me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques. Et ne se grattait un bon dans un concert de chourons, disant d'un ton pathétique que l'état des obscènes, cyniques et corrompus passe grief de leur peine à ceux qu'ils ont élus, car devant tant de problèmes.
D'un suprême, mais déjà le ciel blanchit. Esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Champagne.
Lapin au noyer. Tartiner généreusement deux jeunes lapros de moutarde forte. Les mettre dans une cocotte, dont on aura garni le fond de quelques bardes et de carottes émincées, tomates fraîches et oignons nouveaux. Déglacer au noyer, servir avec de la ratatouille. Lapin à la bourguignonne. Tartiner généreusement deux jeunes lapros de moutarde forte. Mettre à feu moyen pendant 40 minutes en arrosant fréquemment. Lapin au navet. Déglacer au noyer. Tartiner généreusement deux jeunes lapros de moutarde forte. Les mettre dans une cocotte dont on aura garni le fond de quelques bardes et de carottes émincées, tomates fraîches et oignons nouveaux. Lapin au roquefort. Tartiner généreusement deux jeunes lapros de moutarde forte. Les mettre dans une cocotte dont on aura garni le fond de quelques bardes et de carottes émincées, tomates fraîches et oignons nouveaux. Ajouter hors du feu, faire partir de crème dans une grande saute dressée sur le plat, baisser la flamme et laisser bien chauffer, déglacer au dressage largement du miel de roquefort.
Vous pouvez allumer les bougies à table. Vous écoutez France Culture, Nuit Magnétique, Les Plaisirs de la Bouche, Le Festin, Jean-Paul Aron.
Les repas du 19e siècle, on faisait des repas dont nous n'avons même plus l'idée, nous avons des estomacs malingres, et comme disent les gens de cette époque-là, du 19e, les estomacs sous le Second Empire, ou sous la Restauration, sous l'Empire, sous le Premier Empire, ou qui a été également une période superbe du point de vue des mœurs alimentaires, les estomacs, disaient les chroniqueurs gastronomiques de l'époque, étaient crânes. Crânes, et nous n'avons plus d'estomac crâne. Le service était d'une extrême complexité, le service de ce que l'on appelait alors le dîner, que ce soit au restaurant ou chez soi, dans ce repas principal de la journée qui est le repas somptuaire. Le repas comprend trois séquences principales. Dans un service que nous avons oublié, qui s'appelait le service à la française et qui était hérité du XVIIIe siècle. Basé sur, j'allais dire, l'horizontalité du menu. C'est-à-dire qu'au lieu que ce qui est apparu à la fin du XIXe siècle, on serve verticalement, c'est-à-dire selon une séquence temporelle, selon des séquences temporelles, des plats après d'autres plats, et les mêmes pour tout le monde, les services du service à la française, qui étaient au nombre de trois, étaient pour chacun d'eux disposés simultanément sur la table. Et les gens, dans un dîner de 12 personnes par exemple, qui participaient à ce dîner, ne mangeaient pas la même chose.
Lapin aux chipolatas. Tartiner généreusement deux jeunes lapros de moutarde forte, faire partir à feu vif dans une grande sauteuse lapin à la saïgonaise. Tartiner généreusement deux jeunes lapreaux de moutarde forte. Mettre à four moyen pendant 40 minutes en arrosant fréquemment. Ajouter hors du feu 1 décilitre de crème
lapin aux amandes.
Envoyer à part tartiner généreusement deux jeunes lapreaux de moutarde forte. Mettre à four moyen pendant 40 minutes en arrosant fréquemment. Déglacer au noyer. Dresser sur le plat de service
lapin au cumin.
Tartiner généreusement deux jeunes lapreaux de moutarde forte. Faire partir à feu vif dans une grande
lapin
sauteuse.
À la tourangelle.
Tartiner généreusement deux jeunes lapreaux de moutarde forte. Les mettre dans une cocotte dont on aura garni le fond de quelques barbes et de carottes émincées, tomates fraîches et oignons nouveaux. Déglacer au noyer. Envoyer à part une saucière de sauce tomate. À la tourangelle. Tartiner généreusement deux jeunes lapreaux de moutarde forte. Les mettre dans une cocotte dont on aura garni le fond de quelques barbes et de carottes émincées, tomates fraîches et oignons nouveaux. Déglacer au noyer, envoyer à part une saucière de sauce tomate. Lapin aux cacahuètes.
Il y avait pour le premier service, par exemple, le potage obligé. C'était des potages monumentaux dont nous n'avons plus non plus l'idée, enfin. Des potages d'une complexité extraordinaire qui constitueraient pour nous un repas à part entière. Il y avait le relevé du potage. Alors, pour 12 personnes, il y aurait eu deux relevés, c'est-à-dire un énorme pâté de foie gras, un saumon de 5 kilos, une chose comme ça. Ça, c'est alors un relevé au bout de table, un autre relevé à l'autre bout. Et puis, il y avait les entrées. Et il y avait une entrée pour 2 personnes. Alors là, il y aurait eu 6 entrées, des volailles, des poissons, des viandes, tout ce qu'on peut imaginer, qui était servi pour 2 personnes. Les gens qui donc étaient assignés aux poissons et qui préféraient la volaille, regardaient la volaille d'en face avec un œil de convoitise amère. Ce que voyait l'amphitryon, comme on disait, que ce fut au restaurant ou chez soi, et soucieux de faire le maximum de plaisir à ses hôtes, il faisait des clins d'œil au maître d'hôtel qui lui-même donnait aussi discrètement possible des ordres à tous les serveurs pour qu'on fasse circuler les plats si telle ou telle personne n'aimait pas les entrées, etc.
Lapin au basilic, lapin à l'alsacienne, lapin...
Alors donc, il y avait le premier service, le potage, les relevés du potage et les entrées, à raison de 2 par personne. Le deuxième service comprenait les rots et les entremets du deuxième service. Les rots, c'était tout ce qui était rôti ou par analogie frit, grillé, etc. Et les rots étaient servis symétriquement au relevé. Pour 12 personnes, il y aurait eu 2 énormes rots, mettons. La dinde était très estimée à l'époque. Elle avait été amenée d'Amérique et on l'appréciait beaucoup. Une énorme dinde aux truffes, la truffe étant un mets d'une particulièrement succulent. Grimaud de la Reynière dit quelque part que quand arrive sur la table d'un restaurant ou chez soi une dinde aux truffes, un silence religieux se fait dans l'assemblée. Alors 2 énormes rots et puis les entremets du deuxième service, qui étaient entremets qui n'étaient pas seulement des entremets au sens où nous l'entendrions maintenant, des légumes, des salades, etc. Mais des entremets, ça pouvait être reprenant des plaies, des mets qu'on avait vus auparavant, l'entremets pouvant être un pâté de foie gras, pouvant être certains petits poissons, des anchois, etc.
Une fois n'est pas coutume, allons au restaurant, nous payer du caviar et des petits ortolans. Consultons le journal à la rubrique esbrouf, révélant le bon coin où pour pas cher on bouffe. Nous irons à celui-ci, nous irons à celui-là, mais y a des objections là, l'autre aime ça.
Un repas de fête ?
Troisième menu pour une table de 40 couverts. quatre potages. Un potage au hameau, une purée de marron, un potage à la cuzelle, un vermicelle au consommé. Quatre relevés de potage. Un quartier de mouton à la godard, un turbo, une noix à la cendre garnie, une hure de saumon à la tortue, 20 entrées, un chapon à l'essence, un carré de cochon glacé sauce à la poivrade, des ailerons de dindon en haricots vierges, des filets mignons de veau piqués glacés à la soubise, un sauté de volaille à la villeroi, une grenade en turban, des filets de perdreau à l'écarlate.
Les plaisirs de la bouche, Robert Vifian, Tandine.
Un repas de fête, c'est un repas où il y a un maximum, vraiment, de plaisir. Pour moi, la recherche du plaisir est, enfin, sous toutes les formes, est absolument nécessaire.
Alors, combien de plats créerait un repas de fête?
Ça dépend de l'appétit de chacun, ça dépend de la saison. Puis ça dépend aussi, comment dirais-je, de la digestibilité des plats, ça dépend de leur composition. Moi, je crois qu'il n'y a pas vraiment de, disons, entre 5 et 150.
Plats?
Oui.
150 plats?
Tout dépend aussi de la longueur du repas. Vous savez, moi je suis toujours pour les excès. Les excès engendrent le plaisir, jusqu'à un certain point.
Mais vous êtes capable de manger 150 plats?
Je suis capable de déguster 150 plats. Je ne suis pas capable de les finir, mais je suis capable de goûter. Puis de toute façon, plus il y a de plats, plus vous goûtez, puis vous revenez à ceux qui vous plaisent. Ah, c'est aussi une différence aussi de la cuisine asiatique, c'est que nous on aime la multitude de plats, alors que vous aimez... resserrer le nombre de plats. C'est-à-dire que dans un repas français, il y a rarement plus d'une dizaine. Même dans les repas pantagruéliques, disons, du siècle dernier, on dépasse rarement les 30 plats. Non? Chez nous, il peut y avoir beaucoup plus. Mais bon, nous, on aime bien picorer. Ce qui manque, par exemple, dans un repas en France, pour moi, c'est le bruit. Parce que chez nous, au Vietnam et en Asie en général, on ne conçoit pas une fête sans bruit. Et les Français, lorsqu'ils font du bruit en mangeant, sont très culpabilisés. Ils disent que c'est impoli, ce n'est pas bien. Or, chez nous, les gens font beaucoup de bruit en mangeant. Par exemple, nous, en mangeant des nouilles, on aspire, ça fait un bruit très très fort. Mais pour nous, ça... C'est bien. Bon, d'ailleurs, les Français, dégustateurs de vin professionnels, font du bruit en dégustant le vin. Et c'est curieux que bon, cette notion de bruit n'existe pas dans des repas en France. Et qu'à mon avis, c'est un peu triste.
Des filets mignons de veau piqués, glacés à la soubise, un sauté de volaille à la villeroi, une grenade en turban, des filets de perdreau à l'écarlate, des petits pâtés en salpicot, des brochetons au four, des perches à la waterfish. Poulet à la ravigote, une selle de mouton à l'anglaise, des queues de mouton à l'allemande, des tendrons d'agneau à la d'Armagnac, des escalopes de veau à l'essence d'anchois, une grenade jaspée, une capilotade à la régence, des petites bouchées de purée de gibier, des petites truites à la pluche liée, des athlètes de filet de merlan à la bourguignotte.
Puis arrivait le troisième service, et qui étaient les desserts, mêlant d'ailleurs dans une certaine confusion. Autant l'ordre était rigide et superbe pour le premier et le deuxième service, il y avait davantage de laisser aller là. Dessert sucré, dessert salé, des pâtés, du fromage, bien que le fromage ne soit pas, mais surtout au début du XIXe siècle, qui joue un rôle essentiel dans le repas. Mais alors, pour finir et pour résumer tout ça, que ce soit dans le premier, dans le deuxième et même, en tenant compte de cette légère confusion dont je parle dans le troisième service, le potage, par exemple pour la première séquence du premier service, les relevés du potage et les entrées étaient disposés en même temps. On ne les servait pas successivement, ils étaient en même temps. Alors, pour garder tout ça au chaud, car s'il est vrai que cet ordre de la simultanéité avait une valeur déontologique, une valeur esthétique aussi, puis ça faisait partie de la règle du service à la française. Si de ce côté-là les choses sont parfaitement claires, il y a une autre chose qui est très claire, c'est que nous ne pouvons pas manger simultanément. Nous pouvons manger, si on peut s'exprimer ainsi, que successivement. Donc on commençait habituellement sans qu'il y ait d'obligation absolue, puisque les potages, les relevés du potage et les entrées étaient disposés simultanément sur la table. L'usage faisait qu'on commençait tout de même par le potage. Mais alors, les relevés et les entrées risquaient de refroidir, dont des systèmes d'une extrême complexité de chauffe-plat. Pour terminer cette rapide évocation, je dirais que la table du dîner au XIXe siècle, pour des repas de cette ampleur, qui était fréquent, par exemple, je dis de cette ampleur, mais qui était fréquent dans la classe dominante, la table, c'était un univers, le nombre d'assiettes, de couverts, de verres, de plats, de chauffe-plats, était invraisemblable, d'où l'importance des tables.
Grosse pièce. Un buisson de crevettes, une terrine de nérac, un buisson de ramequin, une timbale de nouilles au fromage. Huit plats de roux. Des bécasses, deux levrons piqués, une poularde au cresson, des athlètes d'éperlan, des perdreaux rouges, une accolade de lapereau, des pigeons romains, des soles frites. Entremets. Des cardons à la béchamel, des laitues au crouton au consommé, des choux-fleurs au parmesan, des panquets soufflés aux amandes, des athlètes de pêche, une gelée de pommes renversée, des petites meringues à la rose, une crème aux avelines, des carottes à la vénitienne, des salsifis à la bayonnaise, des petits pois à la crème, une omelette aux truffes, un flan à la Jeannot, une gelée d'orange renversée, des petits paniers à la vanille, une crème brûlée.
Traité de la civilité nouvellement dressée d'une manière exacte et méthodique et suivant les règles de l'usage vivant. Lyon, 1685. Comment doit-on se moucher lorsqu'on est à table ? Il faut se couvrir avec la serviette et se cacher autant qu'on le peut sans se moucher avec son mouchoir à découvert. Que faut-il faire après s'être mouché ? Il faut plier proprement son mouchoir et le cacher sans regarder de qui est sorti de son nez. Cette manière d'agir fait mal au cœur. En quel temps faut-il se nettoyer les dents ? Il faut les nettoyer principalement tous les matins et ensuite des repas, mais il ne faut pas les nettoyer devant le monde ni à table. Étant à table, peut-on cracher sur son assiette des noyaux de prunes ou de cerises ? Non, il faut les recevoir de la main gauche à demi fermée et les mettre sur son assiette.
Il y a de la vérité dans la cérémonie alimentaire du 19e siècle. Je veux dire qu'elle n'est pas seulement une façon d'un simulacre, une façon de jouer à une comédie plus ou moins bien apprise. Il y a un sérieux, et Balzac, qui s'est beaucoup exprimé sur ces sujets, parle du grand drame du dîner. Je dis bien du grand drame du dîner. Il y a même de la tragédie. Ça peut se terminer très mal, par la mort de certains convives par excès alimentaire, ou en tout cas par la constatation, c'est très rare, mais on peut l'imaginer, c'est arrivé la constatation d'un désastre.
Beaujol, chef pâtissier du Taïwan.
Comment on devient pâtissier, c'est... Disons que c'est des choses qu'on apprend déjà, soit si on va à l'école, ou alors avec des gens très intéressants comme moi, avec le chocolat, c'est avec Monsieur Lynx, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un homme formidable, et qui a un palais vraiment, vraiment fou, enfin, qui arrive à tout percevoir, et avec lui j'ai beaucoup appris sur le chocolat. J'aime pas tellement le sel, et je supportais plus sur le sucre, mais à la longue, on se retourne un peu vers le sel, et c'est là qu'on arrive à, comment dire, il faut goûter énormément pour pouvoir comparer, pour qu'il y ait une balance, qu'il y ait un équilibre entre tout ce qu'on peut faire. Et à la fin d'un repas, les gens recherchent de plus en plus des desserts, donc le moins sucré possible, qui ont du goût et qui ne soient pas très très lourds. Même si un client prend 2-3 desserts, on fera une progression par exemple d'un dessert à base de chocolat, après à base de fruits, et on finira par un sorbet. Et c'est ces progressions-là, c'est dans cet ordre-là qu'il faut manger, par exemple, des desserts à la fin d'un repas. Tout ça est très très important. Autrement, bon, la pâtisserie, il y a ce que je disais, les pâtes, par exemple, un feuilletage qui demande beaucoup de temps à faire. On vous dit qu'un feuilletage est possible, il peut être fait en 4 heures, c'est sûr, mais un feuilletage qui est fait en 2, voire même 3 jours, c'est un feuilletage, la pâte aura reposé, et c'est là qu'on reconnaît enfin la différence. Quand je fais un dessert, sur le moment, je ne l'aime pas. Enfin, je ne l'aime pas, je ne l'apprécie pas. Je pense qu'il faut... C'est pas comme une viande, un dessert, mais il faut que c'est un peu pas rassis. Mais il faut que c'est eu le temps, que les parfums se soient un peu mélangés. Mais pas trop non plus. Parce qu'au bout d'un moment, si les parfums se mélangent, on ne distingue plus rien. Et c'est encore de nouveaux parfums qui apparaissent, mais qui ne sont pas définissables. On ne ressent pas les parfums de la même façon. Donc il y a, je crois, 17 desserts. Il y a des desserts, on essaye de trouver une... Il y a une palette assez diversifiée pour les gens qui aiment le chocolat, d'autres qui aimeront le café, d'autres le praliné, d'autres qui aimeront plutôt les fruits, qui finiront par des desserts plus léger, par rapport à une soupe de fruits, on en fait au cassis, on en fait à l'orange, on en fait à beaucoup de parfums. L'été, c'est avec bon, plus de fruits rouges. On essaie aussi de garder, de respecter les saisons, ce qui est très important. Maintenant, beaucoup de restaurants gâchent un peu ce plaisir parce qu'on retrouve n'importe quel fruit à n'importe quelle saison et c'est vraiment dommage. Pour les fêtes, là comme dessert, on va faire une symphonie à l'orange au chocolat. C'est une tartelette qui est posée au milieu de l'assiette avec du chocolat chaud, Enfin, c'est une marquise au chocolat qu'on fait chauffer au four avec des zestes d'orange confit. Tout autour, on met des quartiers d'orange ou de mandarine avec des coulis qui sont assez prononcés pour faire ressortir le goût des fruits et du chocolat. Et au dernier moment, on pose un chocolat glacé dessus. Donc il y a toujours un contraste entre le chaud et le froid. Ça, c'est ce qui est, je crois, à mon avis, quelque chose de très bien à la fin d'un repas. Les gens qui mangent un dessert en chaud-froid, par exemple, je sais pas, il y a des griottes de Fougerolles qui sont formidables, qui sont sautées au beurre et qui sont servies avec de la glace vanille et un coulis griotte. Et ça, c'est un dessert qui passe très facilement à la fin d'un repas.
Nuit magnétique, les plaisirs de la bouche, le festin, avec des textes lus par Karine Lefebvre, la règle du jeu de Jean Renoir, des textes d'Alexandre, Balthazar, Laurent, Grimaud de la Reynière, Manuel des Amphitryons, la cuisinière bourgeoise suivie de l'office à l'usage de tous ceux qui se mêlent des dépenses de la maison, Jules Gouffet, le livre de cuisine, Marie Forêt de la Divonne, Isabelle Maillard, Festin de France et le livre de cuisine d'Alice Toklas. France Culture, Nuit Magnétique, Laurent Lucas, Yann Parentehaine, Bruno Sourcy, Laure Adler.
C'était Les plaisirs de la bouche, troisième partie, le festin. Le troisième de quatre épisodes d'une série de Laure Adler pour les Nuits Magnétiques, diffusée pour la première fois le 31 décembre 1987 et réalisée par Bruno Sourcy. À suivre.